Ça, ça veut dire que c'est la troisième heure de Sweet Home Chicago. On va vite se dépêcher d'écouter Luke Winslow King avec un titre, Jacques, que tu as sélectionné.
Crystal Water Springs, non, c'est pas ça?
Ça doit être ça, si tu le dis. Attends. The Crystal Water Springs, voilà, exactement. Ben oui, pourquoi je doute, moi? Luke Winslow King dans la radio. Voilà, Luke Winslow King. Tout à l'heure, on terminera, Jacques, avec un extrait de la discographie de Bernard Allison, l'album In The Mix, un superbe album de 2015 chez Jazz House Records. Tout à l'heure, on écoutait Sirius, cette reprise de Luther Allison. Mais avant, une petite question, toute simple, toute rapide, toute brève. 02 31 94 66 66. On vous a promis deux places, pas deux places pour la même personne, deux places pour deux personnes différentes qui vont nous téléphoner dans quelques secondes. Jacques, tu as une question à leur poser?
Ah oui, de donner un des noms des membres du Normandie All-Star Blues Band.
Ça, c'est très difficile. Alors, c'est pas Patrick Le Cacheur, c'est pas Jacques Picard, c'est juste les deux autres qui sont en face de moi. 02 31 94 66 66. Voilà, les deux premiers qui nous appellent gagnent chacun une place pour assister à cette 21e nuit du blues à Caen. C'est à partir de 20h, c'est le vendredi 20 mai.
Oui.
Dis-moi pourquoi après Coutances et pourquoi avant Coutances, c'est à cause du calendrier.
Ah oui, alors calendrier Pâques, en fait, et puis en raison de la date de la nuit du jazz à Caen, tu vois, qui était le jour qu'on avait choisi nous pour la nuit du blues. Donc du coup, avec le calendrier cette année très particulier, eh bien on a été obligé de se décaler assez tardivement. Voilà, il n'est pas dit qu'on ne revienne pas en mars-avril s'il y a une 22e édition.
En attendant que les gens téléphonent, petite question également, il y a eu à Coutances un grand plateau avec Betty Lavette et Taj Mahal. Tu y étais, Jacques?
Ben oui, j'y étais, Marc, oui.
Et alors?
Et alors?
C'était comment? Parce que moi, vraiment,
alors, quelle question tu poses là? Non, mais
j'ai vraiment les boules de pas être venu à ce concert.
Oui, mais voilà, on va dire que je suis pas.
Dis-moi que c'était pas bien.
Non, mais on va me dire que je suis pas objectif. Alors,
Alors dis-moi tout quand même.
Voilà. Non, non, moi personnellement, bah, si tu veux, j'ai trouvé le show de Betty Lavette assez froid, mais je suis pas le seul, je pense, à l'avoir pensé.
Un peu court peut-être aussi.
Oui, un peu court, mais et un peu froid aussi. Tu vois, ça n'a jamais décollé. Et bah, Taj Mahal, c'était très bien le répertoire. Je suis pas resté jusqu'à la fin, hein, mais le répertoire, parce que je travaillais le lendemain. Mais le répertoire était très très intéressant. Ouais. Mais bon, il a vieilli, ça. On peut pas lui en vouloir. Hein, ça
reste un grand artiste. Taj Mahal, hein.
74, c'est tout.
Oui.
Ah oui, tu vois, j'aurais dit beaucoup plus. Non, non, mais honnêtement, hein, et voilà, donc, bon, je sais pas comment c'est terminé, si t'as eu des échos de la fin du concert. Il y avait très peu de canets, d'ailleurs, il y a plus de canets, hein,
la
soirée blues de Coutances.
Il faut comprendre une chose, c'est que toutes les dates sont pré-réservées à la pré-vente pour les abonnés, donc forcément, les gens de Caen, tu sais bien, ils se précipitent pas forcément à la billetterie au jour J, et puis, qu'est-ce qui se passe? 3 semaines à l'avance, c'est complet, quoi. Donc, moi, j'ai des potes qui m'ont dit, bah tiens, si, on t'accompagne à Coutances, on va venir. Mais non, les gars, c'est complet depuis 3 semaines, attention.
Oui.
Et puis, ce sont les abonnés, hein, de ce festival. Je crois savoir quand même que sur l'ensemble de ce 35e festival, hein, que Denis Loba organise, il n'y a jamais eu autant de spectateurs et il n'y a jamais eu un aussi fort taux de remplissage. Je crois qu'ils sont à 94% de moyenne de remplissage des concerts. C'est hallucinant.
Ah oui, non, mais c'est énorme. Hein. Non, non, c'est un truc fabuleux. Hein. Mmh. C'est super sympa, c'est super cool. Voilà, quoi. Moi, je dis bravo. Hein.
On va remercier tous ceux qui sont autour de nous. On va les citer à nouveau, hein, parce que ça va être plus facile peut-être pour répondre à la question. Merci Thierry de te rapprocher du micro puis de nous faire un petit coucou.
Voilà, un petit indice. Mon nom a gagné 5 fois le Tour de France.
Exact. Un autre indice, il est décédé en 1988. c'est pas le même. Donc voilà, Thierry, qu'on retrouvera bien sûr sur la scène vendredi prochain. Merci à Marc Blanchard d'être venu à Radio 666 pour la première fois, dis donc, 33 ans après les débuts de la radio. Moi, je dis super.
Eh ben, merci à toi, Marc. Et merci à Jacques et à Backstage de nous avoir invités, surtout nous trois ensemble. Enfin, pour moi, puis je pense aussi pour mes deux potes, là, c'est vraiment un événement de rejouer ensemble. Quel plaisir.
Et puis la répétition chez toi pour démarrer tout ça. En fait, voilà, c'est l'événement 2016, hein, pour les bluesmen normands.
Alors, c'est rien si c'est l'événement. Enfin, en tout cas, pour moi, c'est l'événement 2016.
Jacques, merci aussi, bien sûr, d'être passé. On te retrouve tout à l'heure sur les ondes à partir de 18h chez l'ami Michel Dubourg, je crois,
oui.
France Bleu, hein, c'est ça ?
Oui, tout à fait. Hein, t'as vu ça sur Facebook, hein, t'as Facebook, toi. Hein.
Bah, et alors ?
Et oui, hein, tu vois, on s'est modernisé aussi, nous, depuis quelques années, hein, on est passé aux nouvelles technologies.
Ça, c'était Thierry. Tant que c'est gratuit, effectivement. Ça sera toujours gratuit, Facebook, Thierry. Il n'y a pas de problème. Et donc, tout à l'heure, à l'antenne. On termine avec Bernard Allison. Et puis, juste après, on poursuit la programmation. Sweet Home Chicago, c'est jusqu'à 16h. Il y aura vos dédicaces et il y aura l'interview de Christophe Goffet.
On a juste oublié Jack Broadbent qui va assurer les intermèdes, Marc, mais pas de soucis.
Jack Broadbent qui va jouer dans le hall, j'imagine, hein, du Zénith.
Non, sur scène. Sur scène, ouais, pendant les changements de plateau.
Carrément.
Sur le côté gauche, ouais.
Très bien, super.
Sur le côté de la scène, avec lumière adaptée.
Voilà, pendant que notre secrétaire de choc prend le premier appel, 02 31 94 66 66, vous avez une place qui vous attend pour assister à cette nuit du blues. Voici Bernard Allison, extrait de In the Mix.
To look around. that you ought to. Don't believe you're doing what you should. I know that you are doing your best. You need a good job and not a welfare check. You gotta move away from the hood.
Voilà Bernard Allison, extrait de cet album In The Mix avec Move From The Hood, un des meilleurs titres à mon sens de cet album. Merci encore à Thierry Anquetil, Marc Blanchin qui viennent de quitter le studio. Merci à Jacques Picard de Backstage d'avoir fait à nouveau une petite visite à Radio 666. J'espère que la prochaine fois, Jacques, ce sera pour nous annoncer la bonne nouvelle d'une prochaine collaboration, soit avec le BBC, soit avec le Cargo, soit avec notre
voilà. L'essentiel, c'est du blues et de la musique live. C'est impossible de s'en détacher, c'est ça. Je ne sais pas comment on fait. Parce que si tu veux avoir le plaisir de pouvoir faire rencontrer le public et les musiciens, C'est quelque chose d'absolument incroyable, quoi, ouais. Si tu veux. Dès les balances l'après-midi, moi, les coups de caisse claire, les premiers coups de caisse claire de la balance, t'es dans un autre monde, quoi. Donc voilà, on a la chance de connaître ça, c'est extraordinaire.
Patrick le cacheur, toujours avec nous jusqu'à la fin de cette émission, hein, si tout va bien, tu es d'accord ?
Exactement la même chose que Jacques. Ouais.
Alors c'est vrai qu'il est pourri ce micro, il vaudrait mieux prendre le 2 en fait, ça c'était le micro.
Non, je pensais voilà. La même chose que Jacques, c'est vrai qu'on a la chance de pouvoir nous assister aux balances, et pour moi, bien souvent, puisque forcément pendant les concerts, pendant la soirée, on est pris,
on a juste
on voit 3-4 minutes, on essaie d'aller voir tout le monde, les partenaires, enfin, c'est ce que c'est Jacques, on n'a pas trop le choix, et en même temps, voilà, c'est l'après-midi quand tout s'installe et que ça démarre, et alors là, on prend un pied superbe, quoi. Ouais. C'est phénoménal, c'est ce qu'on aime hein, d'ailleurs, puis la musique live, bah, voilà, il n'y a rien de mieux quoi.
Ben voilà, j'allais vous poser la question.
Bougez-vous.
Qu'est-ce qui vous fait continuer ? Ben vous avez répondu sans que je vous pose la question. Qu'est-ce qui vous meut ? Qu'est-ce qui vous fait avancer ? Ben c'est le fait aussi de partager ce plaisir avec le public. Et peut-être aussi parfois, en tout cas pour Backstage, je sais que vous le faites, recueillir les impressions des gens à chaud ou à froid, après par petit papier dans une urne. Hein, c'est ça, ça continue le fonctionnement ?
Oui, ça continue. Ça marque, c'est une de nos marques de fabrique, ça, effectivement. Le retour des spectateurs et aussi leur contact, si tu veux. Oui, ce qui fait que la nuit du blues, bah, tu sais bien qu'en France, les zéniths qui accueillent des nuits du blues, il n'y en a pas beaucoup. Donc on est dans l'obligation de franchir les 1000 spectateurs payants à chaque édition. Mmh. Ce qui est quand même un challenge dans le blues qui est pas petit. Hein. Et donc ça marche depuis de nombreuses années, mais à la force du poignet, avec l'entêtement, en étant un peu fou, et surtout en sachant bien que chaque année, le challenge est remis en cause, que c'est jamais acquis d'avance.
Jacques, je suppose que tu es très occupé. En tout cas, par contre, si tu as 2 ou 3 heures à tuer ce soir, tu peux nous rejoindre au Sous-Bock. Il y aura Elliot Murphy en quartet. Ça sera extraordinaire là aussi, hein, quand même.
Bah oui, c'est un super artiste, oui, qu'on aime beaucoup. Oui.
Tu viens si t'en as le temps et si t'en as envie, bien sûr. On en reparlera un petit peu plus tard également dans l'émission. Il nous reste 3 quarts d'heure à passer ensemble. C'est pas beaucoup. On va écouter le disque du mois, Fred Chapelier. Et puis ensuite, on va accueillir notre invité suivant, Christophe Goffet, qui a plein de choses à vous dire lui aussi. Ça sera au téléphone. Fred Chapelier. C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de temps, on avait parlé de passer ce titre dans Sweet Is Gone, bien sûr. Mais en attendant, non, c'est bien Fred Chapelier que je voulais vous proposer avec Made in Memphis. Made in Memphis, extrait de It Never Comes Easy.
Muddy Mississippi shines in the light of the moon. Memphis Slim just checked into his hotel room. And Booker T gonna set you free with his groove. Down on Beale Street, everybody's digging the blues. Well, the ghost of Elvis is dancing around in blue suede shoes. Mr. Rufus Thomas gonna walk his dog with you. Otis Redding don't get started till the midnight hour.
is a mean old dancehall shout.
Monsieur Fred Chapelier, extrait de l'album It Never Comes Easy, disque du mois pour Sweet Home Chicago, le mois de mai 2016. On poursuit juste avant la prochaine interview avec le Ventus Blues Band dont je vous parlais tout à l'heure pour avoir partagé avec vous l'album de leur bassiste, donc qui s'appelle Roman. Voici le Ventus Blues Band au grand complet avec Lucky Strike Mama, un extrait de l'album du même nom. Keep them blue. Voilà, c'était le Ventus Blues Band qui nous vient de Finlande avec l'album Lucky Strike Mama, dont on vient d'entendre le titre album. Il est 13h26 à l'écoute du 666. On est ensemble jusqu'à 16h avec notre dernier invité pour aujourd'hui. Il s'agit de Christophe Goffet qui est au téléphone. Salut Christophe.
Salut, bonjour tout le monde.
Ah, on t'entend fort et clair, en tout cas, voilà. Christophe, en direct de, par chez toi, la région parisienne.
Quelque part dans le Val d'Oise.
Christophe Goffet, donc, si vous connaissiez des fous comme Jacques Picard, comme Patrick Le Cacheur, il y en a un autre dans le domaine du rock et du blues également, qui s'appelle Christophe Goffet, presse musicale, interview, enfin voilà, c'est quelqu'un... je te laisse te présenter, Christophe, ça fait quoi, 15 jours, 3 semaines qu'on entend parler de toi, c'est tout, hein?
Ça m'a paru assez rapide, mais finalement, je me suis rendu compte que ça fait quand même plus de 30 ans que je suis actif, on va dire.
Oui.
En même temps, j'ai commencé les fanzines à 14 ans, la presse pro à 15. Tout ça est assez logique. Mais pour faire simple, pour rester juste sur la musique, j'ai notamment dirigé et parfois créé des revues comme Best, Crossroads, Compact, Music Up. D'autres. Voilà. j'ai pas arrêté en fait.
Crossroads, et puis si on veut sortir aussi de l'indie musical, Brésil par exemple.
Brésil, Fluide Glacial en BD, évidemment j'ai pas créé, c'est de Gottlieb, mais
oui.
J'ai travaillé 3 ans. J'ai un peu traîné partout où on m'acceptait.
32 ans de presse musicale, 32 ans de partage, 32 ans de passion, et puis beaucoup d'interviews, beaucoup de rencontres avec des musiciens dans tous les styles, j'ai envie de dire, tu t'es jamais limité à un style ou deux. La musique qui compte pour toi, c'est quoi? C'est celle qui te fait vibrer? C'est celle qui te parle de quelle manière?
Ouais, en fait j'ai eu des périodes, je pense comme un petit peu tous les gens qui écoutent beaucoup de musique, parfois je découvre carrément des pans entiers ou des groupes qui sont majeurs et que je découvre sur le tard parce que j'étais pas contemporain quand j'étais môme ou ado. Donc il y a une espèce de va-et-vient, mais grosso modo, ça reste quand même rock au sens très large.
Oui.
Donc des origines, blues, rhythm and blues, ou des choses un peu plus folk. Et puis ça va même jusqu'au métal, même si j'en écoute plus beaucoup, parce que ça m'ennuie pas mal, en fait, ce qui est produit.
C'est vrai, le métal, ça t'ennuie? Tu veux dire le métal, ce qui se fait en 2016, ou bien...
Ouais, depuis le milieu des années 90, même depuis le grunge, en fait. J'ai l'impression que le grunge a changé la donne de beaucoup de choses, y compris du métal, qui est devenu beaucoup plus extrême, beaucoup plus monolithique, binaire,
ah ouais, d'accord.
Sans grand intérêt. Enfin, je sais pas, mais j'ai le problème avec les chanteurs surtout. Et les batteurs qui sont comme des malades avec des...
Non, Christophe, attends, est-ce qu'on peut, dans ce style, est-ce qu'on peut parler de chanteurs? J'en sais rien. Bon, voilà. Il y a peut-être des groupes comme ça ou des artistes que tu classerais dans un petit panthéon. Je sais qu'à l'époque de Crossroads, vous aimiez bien comme ça mettre des petites étoiles et puis donner tout votre avis, toute l'équipe.
Pour ce qui me concerne moi personnellement, c'est toujours été très varié. J'ai toujours essayé de défendre certains artistes et groupes qui ont émergé dans les années 80 parce que c'est la décennie où j'étais ado. Et c'est une décennie qui est complètement détriée, et tout le monde chie dessus. Et donc j'ai toujours eu envie de défendre. Il y a eu des bonnes choses vraiment dans cette décennie, même en rock, et même surtout en rock. Des choses assez radicales.
Et des trucs en France particulièrement ou pas forcément?
Après, j'ai un problème avec le chant en français. Ah. J'ai plein de problèmes, comme tu peux te rendre compte. Mais le problème du français, c'est que tu peux pas faire semblant de pas comprendre.
Tu penses vraiment que les spectateurs français, quand ils écoutent de l'anglais, et c'est tant mieux s'ils comprennent pas, c'est ça?
Ouais. Si tu veux, le niveau est quand même assez médiocre. Mais tu peux faire le gars qui comprend pas, ou par chance, tu comprends vraiment pas. Donc c'est encore plus pratique. Mais en français, c'est très difficile, et des bons paroliers, il n'y en a pas beaucoup.
Ouais.
T'as des gens comme Thiéfaine, ils sont vraiment une poignée. Des bons paroliers qui, en plus, ont eu un écho et ont su trouver un public, encore moins.
Oui, il n'y a pas le personne, quand même, Christophe.
Ouais, il n'y a pas aussi, mais c'est quand même assez simpliste. C'est pas péjoratif, hein, ce que je dis, mais ça reste... Paul, c'est d'abord un compositeur, et à l'intérieur de la composition, c'est d'abord un guitariste. C'est plus qu'un parolier, je pense.
D'accord, d'accord.
Mais je l'adore.
Alors, je pense, voilà, tu parles de quelques coups de cœur aussi, et puis peut-être, pourquoi pas, d'un peu de nostalgie, les années 80, les années ados. Pourquoi pas, j'ai envie de dire, maintenant, on est en 2016, il y a des gens comme nous, comme Patrick Lecacheur, qui est en face de moi, avec qui on a fait toute l'émission, comme moi, comme Jacques Picard. On continue à écouter du blues, malgré que ce soit une musique antédiluvienne, d'accord, qui continue à perdurer, à exister. Est-ce que c'est pas un peu l'avenir du rock'n'roll aussi, qui va être condamné à bégayer?
Oui,
à
ça. Mais de toute façon, tu vois, en fait, cette approche que tu as, qui est naturelle, je suppose que c'est pas un truc que t'as, qui réfléchit.
Ah si, moi personnellement, on me force à faire de la radio, hein, déjà.
Non, je veux dire, c'est exactement ce qu'on a fait quand on a démarré Crossroads, et je sais pas si tu te souviens, mais la toute première couverture de Crossroads, c'était Ryan Adams, Ryan Adams.
Ouais.
Pour moi, c'était très important d'avoir un mec, il avait 26 ans à l'époque, d'avoir un mec qui, justement, découlait de toutes ces musiques qu'on avait envie de défendre et dont on avait envie de parler,
ouais.
En partie parce que les autres n'en parlaient pas, mais c'était pas la raison principale. La première raison, c'était qu'on avait vraiment envie de défendre et d'essayer de transmettre une passion, de faire découvrir des choses. Et parmi ça, il y avait aussi le fait de montrer, prouver qu'il y avait toujours des nouveaux artistes qui continuaient d'apporter des choses intéressantes, et que justement, c'était pas des musiques passéistes. Donc, et pour le rock, c'est pareil aujourd'hui, je pense.
Qu'est-ce que c'est qu'une musique passéiste, Christophe Goffet?
Tu sais, quand t'as l'impression, je veux dire, si une chanson que t'écoutes, t'as l'impression que c'est un truc qui est passé par une photocopieuse 25 fois, c'est dans ce sens-là, c'est dans le côté, on fait aucun effort pour apporter quelque chose de nouveau, on applique juste à la lettre des choses existantes. Et le rock et les musiques avoisinantes sont quand même très simplistes, donc si tu fais pas un minimum d'effort pour rendre ça plus original.
Original, attrayant, intéressant, voilà, habillé, maquillé.
Voilà, c'est juste un morceau de rock en plus. Et c'est ce qui fait le plus de mal à la musique, au rock et à toutes les musiques, je pense, c'est ça, c'est les clichés. Et tu vois, il y a plein de gens qui aujourd'hui disent, ouais, c'est super, tout le monde peut composer avec un ordinateur, sortir des disques, les graver lui-même, etc. Je suis pas sûr que ce soit une bonne chose pour la musique, parce que justement, c'est pas parce que t'as 10, 100, 1000 fois plus de disques que t'as 10, 100, 1000 fois plus de talent, de génie.
Ouais.
Les génies, ils sont très peu nombreux, il y en a 2, 3, 4 par génération. Et maintenant, aujourd'hui, ils sont noyés dans une espèce de bouillabaisse.
Oui, là, je serais plutôt d'accord avec toi. Un génie, on vient d'en perdre un le 8 janvier 2016, c'est David Bowie, enfin, je pense que tu vas pas me contredire. Il y a d'autres artistes, malheureusement, qui sont décédés depuis, des gens peut-être qui ont moins compté pour la musique, qui ont plus compté par rapport à d'autres, à chaque fois les goûts et les couleurs. Tu parles de futur, tu parles effectivement de l'appropriation de la musique par un petit peu tout le monde. Il y a également des nouvelles technologies qui sont arrivées il y a 20 ans, 10 ans, 5 ans. On a Facebook tous, et justement, par ce biais, il y a des gens qui écoutent l'émission, dont Olivier Durousseau, et qui te demandent, mais dis donc, et Bill de Rem alors, tu l'oublies?
Pas du tout, on en a parlé dans Crossroads.
Ouais, il me semble.
On l'a défendu, on a été partenaire de tournée. Non, en fait, dans l'absolu, j'essaye d'oublier personne, mais c'est vrai que c'est difficile. Tu vois, tu me demandes ce vers quoi j'ai plutôt tendance à aller, et des disques, j'en ai écouté je ne sais combien, peut-être 30 000, peut-être plus, tu vois, donc c'est très difficile, et j'en écoute tout le temps,
ouais,
je bosse chez moi, donc j'écoute de la musique 15 heures par jour, quasiment tous les jours de l'année, depuis que j'ai 12 ans, 13 ans.
Et maintenant que tu en as 98, dis donc.
Voilà. Maintenant j'ai tout plus fort, si je suis un peu
Alors dis donc, il y a des gens qui trouvent grâce à tes yeux, il y en a d'autres bon, que tu considères comme un peu plus mineurs. Parmi les 1400 interviews que tu t'apprêtes à compiler sur papier, il y a forcément des artistes que tu vénères, que tu adules, et puis d'autres donc tu considères que c'était voilà, une rencontre comme ça, on m'a demandé de faire une interview, machin.
Ouais, en fait c'est assez. Les interviews que j'ai faites, on va dire alimentaires, il n'y en a pas eu tant que ça, pour plusieurs raisons. Une des raisons, c'est que souvent, j'étais rédacteur en chef moi-même des revues.
Oui, donc ça veut dire que tu vas interviewer qui tu préfères,
voilà,
finalement.
Donc c'était un peu le choix du roi, si tu veux. Donc, c'est aussi ce qui m'a permis de les faire quasiment tous,
oui.
À part ceux, évidemment, qui étaient morts quand j'étais trop jeune, voire qui étaient morts avant de jeunesse. Malheureusement, je ne sais pas ce qu'il leur a pris sur ce coup-là. Ouais. Mais voilà, il y a eu très peu de choses comme ça. Et il y a une raison autre, qui est une pure raison, pas déontologique, mais vraiment d'organisation et de travail, qui est que je ne sais pas faire une interview si elle n'est pas super préparée. Et je ne peux pas la préparer comme je considère, de façon correcte, si tu veux.
Ouais.
Si je ne n'apprécie pas et je ne comprends pas suffisamment l'univers de l'artiste ou du groupe.
D'accord. Donc ça veut dire que tu ne te contentes pas d'écouter la musique, comme tu disais.
J'étais condamné à aller voir des gens qui, de toute façon, m'intéressaient.
Oui.
Après, le côté idole, etc., j'ai toujours essayé de ne pas mettre les gens sur un piédestal. Ça, c'est une autre raison. C'est plus parce que moi mon rendu, tu vois, mon objectif quand je publiais ça, c'était d'avoir une espèce de créer une proximité entre l'artiste et le lecteur. Et donc la seule façon d'y arriver, c'est de raccourcir la distance entre toi et le lecteur,
oui.
Et de l'autre côté entre toi et l'artiste.
Oui.
Donc, j'ai toujours fait ça. Et la meilleure façon de raccourcir la distance entre toi et l'artiste, c'est juste que lui, il ait une compréhension immédiate que non seulement tu connais tout ce qu'il a fait, mais tu l'apprécies à sa juste valeur. Et ça passe également par le fait de pas toujours être très cool avec eux. Je vais te donner un exemple là qui me vient à l'esprit. Ben Harper, qui est devenu...
ce qu'il est devenu.
Dire un ami, tu vois,
oui.
Avec les années, que j'ai, qui a voué le premier album, et puis quasiment sur tous les albums.
Oui.
Et ben, il lui est arrivé de faire des trucs qui ne me plaisaient pas. Et là, je parle presque de stratégie de marketing. À un moment, il a sorti deux albums au lieu d'en faire un double. Et voilà, je lui ai dit, je suis désolé, venant de toi, c'est pas possible.
Paul Persson a fait la même chose, hein.
Oui, mais bon, après on rentre sur l'histoire d'argent, on va dire.
Oui, j'ai bien compris, business, voilà. Et ouais, donc, c'est un truc que tu lui as...
L'entière de Ben Harper, c'était vraiment la maison de livres qui lui avait imposé ça.
D'accord.
Mais ce que je veux dire, c'est que je pense qu'il était en mesure de dire non. Voilà, non, je me bagarre pour que mes concerts soient pas trop chers, etc. Donc, je me bagarre pour que les gens ne dépensent pas deux fois... Deux prix d'album, alors qu'un double, c'est 20% en plus.
Bon, après, il avait peut-être une très bonne raison de faire ça, qui n'était pas essentiellement forcément marketing, j'imagine. Je ne suis pas l'avocat de Ben Harper, mais il aurait pu te répondre, bah écoute, vieux, j'en garde un pour plus tard. Mais en fait, l'idée, c'est parce que j'ai proposé beaucoup de choses et maintenant, je voudrais me reposer. Quoi.
Non, non, il les a sortis en même temps.
D'accord, ben voilà. Bon,
alors okay. Après, voilà, le discours un petit peu officiel, c'était oui, il y en a un qui est un peu plus rock, un peu plus...
Ouais.
Un peu plus up-tempo, et l'autre qui est un peu plus, qui part plus sur le folk et les choses plus intimistes, comme je faisais sur le premier album ou sur l'album avec Tom Freud avant. Mais bon, j'y crois pas, et quand t'écoutes les disques, ils sont complètement bancals, tu te rends bien compte qu'en fait...
ce que t'es en train de nous dire, Christophe, c'est que tu n'es pas un intervieweur complaisant, c'est ça en fait l'idée?
Oui, en fait, je pense que c'est... C'est une marque de respect quand tu es en face de quelqu'un de lui dire ce que tu as à dire, que ce soit positif, négatif.
Alors,
mais évidemment que ça amène la discussion, parce qu'il y a que ça d'intéressant. Le reste, c'est pas juste dire que tu as fait le con. Ça présente aucun intérêt. C'était marrant, une fois, j'avais une de mes interviews avec Robert Plant, l'album qu'il avait fait, ancien bassiste de Cure, etc. Je lui dis, ouais, ok, c'est bien pour un effet d'annonce de dire t'as machin, t'as bidule, mais ça sert à rien en fait. Tu composes dans ton coin, les mecs, c'est des mercenaires, on s'en fout quoi.
Ouais.
On parle plus de musique, tu vois.
Bon.
Et je sais que ça lui avait pas plu, et je pense que ça lui avait pas plu parce que c'était un petit peu vrai, tu vois. Mais ça avait déclenché une discussion.
Mm-hmm.
Et c'est ça qui m'intéressait, moi. C'était juste, parce que c'est pas évident de parler de musique. C'est pas évident de parler de musique avec quelqu'un qui crée sa musique, alors que toi, moi je suis rien, toi, je suis pas musicien, je serais infoutu même de lire une partoche. Donc il y a une espèce de décalage, tu vois, donc il faut essayer de rééquilibrer, bref, c'est pas facile. Toi.
Oui, je comprends. Alors l'idée en fait, c'est de rencontrer des artistes, c'est un petit peu peut-être, pourquoi pas, de les pousser dans leur retranchement, et surtout d'essayer de faire en sorte que le lecteur puisse réfléchir sur la démarche artistique réelle, et aussi, pourquoi pas, merchandising ou business qui se cache derrière. Mais en fait, c'est pas forcément de dénoncer des choses qui t'intéressent, Christophe, c'est surtout d'obtenir l'authenticité et l'honnêteté.
En fait, si tu veux... J'ai remarqué avec le temps, parce qu'évidemment tout ça a été un petit peu progressif, évolutif, j'ai remarqué que je m'étais barré un petit peu sur presque de la philosophie de comptoir. Tu vois, au bout d'un moment, j'étais presque obsédé par les raisons qui poussent les musiciens à composer.
Oui.
D'ailleurs, mes interviews, la plupart du temps, c'est qu'avec des compositeurs. Je ne fais pas des groupes, tu vois, je ne m'assois pas à la terrasse d'un café avec un groupe de 5 mecs. D'abord, ça ne donne jamais rien, on dit des conneries, on se marre, bon, c'est rigolo, mais t'as pas de contenu, si tu veux. C'est toujours plus intéressant d'avoir quelqu'un en face de toi et que ce soit vraiment du one-on-one, qu'on soit vraiment, tu vois, qu'on puisse se parler dans les yeux.
Ce qu'on est en train de faire, Christophe, mais on s'entend, on se comprend quand même. Hein. ça peut arriver aussi, je veux dire.
Mais voilà, hein. Ça veut dire que j'ai jamais eu de règles, vraiment, j'essayais toujours de trouver une espèce d'équilibre pour que tout le monde s'y retrouve.
Oui.
C'est-à-dire que mon appétit, moi, d'avoir des, comme ça, un peu de, d'avoir tout un tas de réponses à des questions, soit rassasié, et qu'en même temps, le lecteur en est pour son compte, c'est-à-dire qu'on lui propose quelque chose qu'il puisse pas lire ailleurs, et que, par ricochet, parce que c'est un petit peu la même chose, que aussi l'artiste puisse avoir des questions un petit peu différentes et que ça l'emmène un petit peu ailleurs.
Oui, je pense qu'il y a aussi quelque chose qui doit emmerder pas mal d'artistes. Enfin, on va citer des noms tout à l'heure, parce qu'il y a des auditeurs qui sont bien passionnés blues, et puis il y en a d'autres qui s'intéressent à toutes sortes de musiques. On va citer des noms, mais quand même, dire que si c'est une conférence de presse, tout va bien. Si c'est une série d'interviews, et quand tu es devant B.B. King, tu as 5 minutes avec lui, et il y a déjà 25 journalistes qui lui ont posé les mêmes questions, ça doit lui laver la rate au bout d'un moment de répondre toujours les mêmes trucs, quoi.
Bon, lui, je suis pas sûr que c'est un bon exemple, parce que les interviews, il les fait pas, déjà. Il en a pas fait beaucoup. Mais oui, enfin, bon, après moi, il y a une espèce... voilà, je parlais de respect tout à l'heure. Il y a des choses que j'ai toujours refusées. J'ai jamais fait de conférence de presse. Mais quand je dis jamais, c'est... je mens, en fait. J'en ai fait une dans ma vie. En 1995, c'était pour rencontrer Sean Penn. J'ai posé aucune question et je suis allé le voir après. Voilà,
ouais, d'accord.
Donc j'ai assisté au truc. J'ai fermé mes oreilles et toutes les écoutilles pendant une demi-heure, parce que c'était atroce. Et en plus, c'était avec Jack Nicholson, je me souviens. Donc ça me permet de croiser deux d'un coup.
Voilà, ça c'est le volet, voilà. C'est le volet cinéma de Christophe Goffert.
Sinon...
Hein.
Sinon voilà, pas de conférence de presse, pas d'interview à plusieurs, mais ça n'a aucun sens en fait, parce que tu te diriges nulle part, ça part dans... enfin, tu peux pas construire quelque chose. En fait, je suis assez... quand je prépare mes interviews, je suis très très chiant avec moi-même, j'arrête pas de me pousser.
T'es sûr que t'es chiant qu'avec toi-même,
dis-moi. Ouais. mais je veux pas dire que c'est maladif, mais c'est peut-être obsessionnel, c'est-à-dire que je me retrouve... je vais donner un exemple récent qui me vient à l'esprit. J'ai réinterviewé Mike Scott, donc des Waterboys, là en début d'année. C'était ma peut-être 5e interview. Donc on se connaît bien, on est en contact direct, tu vois. Je passe pas par la maison de disques depuis des années, etc. On avait 2 heures, tu vois, c'était bien. Mais voilà, je suis arrivé à 450 questions. Franchement, je sais pas si c'est raisonnable.
Est-ce que c'est bien raisonnable, oui.
D'arriver avec tout un tas de questions.
Ouais.
Notamment des questions auxquelles il n'avait déjà pas répondu les fois précédentes, parce que je suis un peu têtu aussi, tu vois. D'ailleurs, il a été très loquace ce coup-ci, curieusement. Voilà, mais il n'y a pas de... Ouais, je pense que, voilà, une partie du respect qu'on peut avoir, nous, qui rencontrons, qui avons la chance... C'est quand même une chance, un privilège de rencontrer et de parler avec ces gens.
Il faut le rappeler, c'est ton quotidien, mais tu as une chance au quotidien, Christophe.
Voilà, moi j'ai toujours essayé vraiment de, tu vois, de pas les mettre sur un piédestal, comme je disais, parce que du coup, ça déséquilibre complètement la discussion et c'est pas possible, tu vois, de rester vraiment d'égal à égal, ce qui veut pas dire que je serais aussi bon qu'eux pour faire leur truc, tu vois, ça n'a aucun rapport, mais vraiment de rester à leur niveau, quoi. Donc ça, c'était le premier truc. Et le deuxième truc, c'est vraiment de les respecter en préparant au maximum le boulot, quoi, tu vois. Parce que les mecs, ils ont passé des mois, des années à préparer un disque, à peaufiner la production, et ainsi de suite, à l'enregistrer, à le réenregistrer, bref, à bosser dessus. Et toi, t'arrives, tu peux pas arriver comme ça.
Alors dis-moi, oui.
J'ai 30 questions écrites dans le métro, quoi, tu vois. Enfin, je veux dire,
Christophe, est-ce que tu penses qu'en 2016, est-ce que ce serait donné à beaucoup de journalistes dans d'autres styles, dans d'autres domaines, le sport, la politique, etc. Est-ce que tu penses que d'autres journalistes pourraient, avec la même passion, prendre le même temps de préparation pour chaque interview qu'ils font? Quand je vois le rythme auquel ça a lieu, que ce soit à la radio, à la télévision, dans les journaux, etc. Maintenant, on n'a même plus le temps de confirmer quelque chose, que c'est déjà repris, et donc forcément, à partir du moment où une info est reprise dans plusieurs médias, ça devient en quelque sorte une confirmation, fausse bien sûr. Est-ce que c'est bien raisonnable, cette démarche en 2016, Christophe?
La mienne?
Oui, la tienne.
Écoute, j'en sais rien. C'est pas quelque chose que je fais ni par habitude ni par défaut. C'est quelque chose que je me sens obligé de faire.
D'accord.
C'est-à-dire que je me vois pas me pointer devant quelqu'un. Ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé, évidemment, mais plus dans le cinéma, où tu es sur un festival, tu vois un film le matin, on te dit, ouais, tu peux rencontrer machin à 14h.
Oui, c'est ça le truc aussi, ça peut arriver.
Entre-temps, tu as un autre film, enfin, tu vois, donc c'est pas possible, mais à ce moment-là, je le dis. C'est-à-dire, j'arrive, je dis, ok, j'ai vu le film. Là, voilà, un des trucs hallucinants, c'est que quand, à Cannes,
Mais oui, t'es pas à Cannes en ce moment, dis-moi.
Non. Oh là là, depuis que je peux être exempté, je le suis avec bonheur. Bon. Je déteste cet endroit. Voilà, la première question que te pose un acteur, ou pire, un réalisateur, quand tu arrives devant lui, c'est il te demande si tu as vu son film. Je pense que s'il te pose la question, c'est que la plupart l'ont même pas vu.
Bah oui, c'est clair.
Et je trouve ça hallucinant, tu vois. Et donc moi, voilà, quand j'ai pas le temps de préparer, ce que je fais, c'est que j'arrive et je dis que j'ai pas le temps de préparer. J'explique pourquoi j'ai besoin de préparer, pourquoi c'est important de préparer. Et à ce moment-là, on discute. Alors c'est pas vraiment une interview. Je dis voilà, on va parler, on va voir où ça nous emmène. J'enregistre. Si tu veux, quand je le retranscris, c'est plus du question-réponse, quoi. Je me permets pas ni de le reconstruire, ni de tricher, ni de changer des trucs. Je préfère faire un papier avec un insert, je sais pas.
Oui, c'est ça, sans les questions-réponses, avec simplement un fil conducteur.
Ouais.
D'accord.
Voilà, après, mon rapport à l'interview est vraiment particulier. Je sais pas si c'est unique. Je sais qu'il y a Beauvallet, par exemple, au Narod, qui travaille un peu pareil. Mais il en a fait beaucoup moins que moi. Voilà, il n'y a pas de raison que je sois le seul à bosser comme ça. En fait, ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai commencé à écrire beaucoup, j'avais des rubriques, je faisais beaucoup de chroniques, je faisais des papiers sur des concerts, je faisais enfin, tout un tas de choses, le panel classique, je tapais un peu dans tous les registres. Et assez rapidement, je me suis rendu compte que le seul truc qui m'éclatait, c'était les interviews.
Mmh.
Les chroniques de disques, c'est très très dur. C'est très dur de, tu vois, honnêtement, je pense que je peux faire une chronique d'un disque correctement, mais un an après sa sortie, quand je l'écoutais 80 fois.
Oui, à qui le dis-tu ? À qui le dis-tu ?
Sinon, c'est juste pas possible. le tweet là. Et aujourd'hui, je parle même pas, ils te filent des liens pour écouter ça sur Internet. J'y vais pas, je mets pas les pieds, je dis, mais allez vous faire foutre.
Tu préfères le truc physique, toi, quand même.
Mais ouais, c'est plus le son, quoi. On n'a pas inventé la haute fidélité pour écouter des merdes compressées sur un ordinateur, parce que c'est complètement délirant. Et tout ça pour défendre des artistes qui ont le même avis de toi, en plus, toi. C'est juste complètement stupide. Moi, à chaque fois, je leur dis, il n'y a pas le choix, c'est comme ça. Ils disent, bah, ok. Alors moi je veux bien, je vais écouter ton truc, mais je te fais une chronique de ton site internet, de ton machin de streaming. Je ne fais pas une chronique de disque. Voilà, je te dis que ton arborescence elle est jolie, ça ressemble à un sapin de Noël, si tu veux.
D'accord.
Mais ne me demande pas de te chroniquer un disque que j'aurais écouté à l'arrache une fois, parce qu'en plus tu peux même pas le télécharger, sur un site à la con, avec des pubs dans tous les sens en plus. Non, c'est pas possible.
Christophe, il y a Patrick le Cacheur qui est toujours dans le studio avec moi. Je crois qu'il a un petit truc à te dire, réagir sur ce que tu viens de dire. Ouais.
Oui, salut Christophe, Patrick.
Bonjour.
Je voulais savoir si tu allais encore des fois voir des concerts comme ça sans trop connaître un peu l'artiste, hein, ou le groupe qui se déplace comme ça, qui viennent ou des US ou d'Australie, ou enfin n'importe où.
En fait, c'est quasiment plus que ce que je vais voir. pour une raison presque connexe, qui est que je ne veux plus aller dans les grandes salles.
Ouais.
Tu vois, sur Paris, bon, moi j'habite en région parisienne, donc je vais beaucoup à Paris, même si je me déplace jusqu'à Caen, des fois.
Oui.
Jusqu'à Lyon, etc. Mais en Belgique, enfin, un peu partout. Mm-hmm. Mais voilà, sur Paris, si tu veux, l'Olympia, c'est ma limite, quoi. En général, je me renseigne, et si c'est un concert assis, j'y vais pas. L'idée de s'asseoir pour être.
Très belle réponse.
C'est juste pas possible. Donc voilà. Moi, je préfère, je vais dans un troquet où je me balade, j'entends un bruit, il y a un truc live, je vais voir ce que c'est. En plus, ce qui est intéressant dans la musique live, c'est les accidents, quoi.
Tu penses au Bataclan ?
Voilà, oui. J'aurais dû y être, en plus. Bon, on va pas parler de ça. Mais ce qui est intéressant, c'est des groupes qui font des pains, qui sont pas encore très bien ensemble.
Mais que tu sens le potentiel derrière,
ouais,
quoi.
Ouais, puis, potentiel ou pas, c'est vivant, quoi. Il se passe quelque chose. Là, aujourd'hui, je suis désolé, je le dis à tous ces gens, mais ils vont voir Muse dans un stade, quasiment 80% du concert est sur bande, préenregistré, c'est le batteur qui lance ça avec un ordinateur, parce que je trouve ça lamentable, quoi. Eux, ils vont voir des fourmis sur un écran, en plus ils lâchent un billet de 150€ ou je sais pas combien pour ça. Je trouve ça mais pitoyable, je complètement débile, quoi. Alors que t'as aucun plaisir à ça. Alors évidemment, ils disent qu'ils sont contents, évidemment, et ils ont payé pour être contents, donc c'est la moindre des choses. Voilà, moi, je le vois, tous ces concerts où je vais, j'emmène toujours des gens, j'aime pas trop aller aux concerts tout seul, j'aime bien avoir...
C'est un partage, la musique live,
deux personnes, ouais. Tu vois, je trouve ça plus sympa.
C'est clair, tout à fait.
Pour discuter, etc. Et voilà, c'est génial de découvrir un groupe. Alors que foot, des cornes qui brillent la nuit, aller dans un stade avec 100 000 personnes pour la même chose pour voir ACDC, mais rien à foutre, quoi. Franchement. Enfin, <ouais. rire> Et ça devrait même pas exister, mais bon, si tu veux, voilà, c'est de la consommation de masse, c'est comme ça. Hein.
Ouais. Alors moi, je vais réagir à ce que tu as dit en début de l'interview tout à l'heure, tu parlais des musiques des années 80. Moi, ce que je redécouvre avec le blues, avec la musique afro-américaine qu'on peut avoir encore un peu chez nous, dans des clubs et dans des bars, ou dans des petits festivals à droite et à gauche, moi, j'ai eu ces sensations-là autrefois dans les années 80, quand c'était une période de musique que tu disais, les années 80, qui ont été un petit peu décriées, qui sont un peu décriées maintenant, où je rentre pas dans des débats là-dedans parce que je pourrais me fâcher. Moi, je me rappelle des premiers concerts où il y avait Baos, Christian Def et tout ça. Et je peux te dire que moi, ces moments-là, je les voyais que dans les petits clubs. Bon, moi, j'étais obligé de quitter Rennes à l'époque pour aller sur Paris pour les voir.
Christian Def à l'Élysée Montmartre.
Et tout à fait. Et j'ai vu Ojibus, j'ai vu Baos.
Concert arrêté par les flics et tout.
Eh bien, tout à fait. Eh bien, tu vois, ces moments-là...
J'avais 16 ans, tout
à fait. J'étais un petit peu plus vieux. Mais c'était magique, quoi. Des moments comme ça, ça... Enfin, je veux dire, on a du mal à retrouver ça maintenant.
Oui,
Même si tu vas sur un festival punk maintenant, c'est bien organisé si tu veux, c'est plus punk quoi, tout est propre maintenant.
Après moi j'ai un autre problème, c'est avec la musique en extérieur, c'est que les conditions sonores sont juste déplorables quoi. Faut que tu tombes sur un endroit qui est plutôt pas mal, qui est un peu encaissé, faut pas qu'il y ait de vent, faut ceci, faut cela, faut que le mec au son soit balèze. Faut que aussi le management des 2-3 têtes d'affiche accepte que les 12 000 groupes d'avant aient un son correct. Déjà, en général, c'est plutôt là que ça pêche. Donc j'ai plus de mal, toi, aller sur les festivals. Je préfère aller en marge d'un, toi, je sais pas, d'un exemple, aller à Cognac et puis faire les bars, quoi. Tu vois, c'est plus sympa.
On s'est vu à Cognac, Christophe.
Oui.
Dis-moi, Christophe, on va arriver à la fin de cette interview. Je voulais quand même te poser une question essentielle. C'est par rapport à ton actu. Et puis, justement, le fait que tu aies décidé de mettre toutes tes interviews, il y en a 1400, dans
ça,
des
bouquins.
Ça, c'est
un beau projet. Hein.
Ah oui.
C'est un super beau projet.
Alors, attends, il y a un volume 1 qui sort. Il n'y aura pas tout, mais il y aura l'essentiel. Il y aura un volume 1 qui s'appelle Blues Country Folks, hein, les mecs, attention. Le volume 2 qui sortira en octobre, qui s'appelle Americana Baby. Le volume 3 qui sortira en mars 2007, qui s'appelle Rock'n'Roll Motherfuckers. Et puis, le volume du blues qui nous intéresse.
L'ordre n'est pas sûr. Mais
on ne va pas tout citer. Simplement dire quelques noms d'artistes de blues comme ça que tu as pu rencontrer, dont tu vas retranscrire les interviews. B.B. King, John Lee Hooker, Albert Collins, Gary Moore, John Mayall, Peter Green, Albert King, Johnny Lang, Papa Chubby. Il y en a.
Il y en a 43, exactement.
Il y en a 43. Alors, 43 interviews de blues que tu vas réunir dans ce premier bouquin, volume 1, Blues Country Folks, que tu vas vendre pour une trentaine d'euros à 1000 exemplaires, si j'ai bien tout lu.
Oui. En fait, si tu veux, cette idée de...
C'est quoi le cœur de cible pour ce genre de production, de parution ?
Déjà, l'origine, c'est il y a 2-3 ans, puisque je bascule un petit peu sur le cinéma, là, je suis en post-production de mon premier long-métrage, et puis la presse, je vais pas dire que j'arrête la presse, c'est la presse qui s'arrête, donc, du coup, j'arrête aussi la presse, et puis j'ai aussi fait quasiment tout le monde, et beaucoup sont plus là, enfin bref, donc je m'étais dit que ça serait pas mal de tourner la page de cette façon-là, et de regrouper... pas nécessairement le meilleur d'ailleurs, parce qu'il y a des choses, je parlais de défauts tout à l'heure, il y a aussi des trucs qui sont moins intéressants, mais voilà, que j'ai envie de remettre en contexte, etc. Et c'est là que j'avais une liste d'interviews que je tiens à jour depuis 1984, avec l'ordre et des dates, donc ça je l'avais déjà, toi, je l'avais depuis toujours sur un cahier, j'ai toutes mes cassettes, et donc j'ai commencé à faire des blocs par style.
Ouais. Pourquoi par style, Christophe?
Là c'est plus par rapport au lecteur, si tu veux, c'est-à-dire pour que j'avais pas envie, je vais donner
pour que les gens s'y retrouvent, c'est ça?
Oui, c'est plus j'avais pas envie d'abuser, c'est-à-dire que le gars qui ne serait intéressé que par un style, on va dire le mec qui aime que le blues que ça.
Ça leur a peut-être fait chier d'acheter les 12 bouquins, quoi,
voilà,
c'est ça.
Ça m'embêtait de lui vendre 12 bouquins, oui. alors que je peux tout mettre sur un seul, quoi.
Bon.
Ça me paraissait plus cool, et surtout que voilà, il y a cette histoire de tirage limité. Au bout d'un moment, je me suis dit, j'ai essayé de me poser la question, pourquoi t'as fait tout ça? puisque c'est censé être une espèce de bilan, je tourne la page, etc. Pourquoi t'as fait tout ça? Et qu'est-ce qui t'a donné le plus de plaisir dans tout ça? Et en fait, je me suis rendu compte que le plaisir maximal que j'ai eu, c'est par rapport aux lecteurs. C'est les retours des lecteurs. Les artistes un peu, mais bon, tu sais jamais, quand tu les connais pas bien, tu sais jamais à quel point ça peut être hypocrite ou pas, voilà. Alors que les lecteurs, c'est franc, c'est-à-dire les mecs, ils se déplacent, ils vont, en plus, pour rester sur Crossroads, c'était pas évident de le trouver dans certains endroits, ils se déplacent, ils font l'effort, ils l'achètent, ils te lisent, et ensuite, ils font même l'effort de te contacter pour te dire que ça leur a plu. Et ça, c'est super gratifiant, quoi.
Ou pas.
Des fois ils sont pas contents.
Ouais.
Alors pour pouvoir distribuer ces mille exemplaires, tu vas travailler sur la prévente ou tu fais comment alors?
Voilà, j'ai commencé une souscription timidement parce que je suis occupé à finir le bouquin, donc je fais pas les choses dans le désordre. Mais si tu veux, il me reste un fichier de lecteurs de Crossroads Brasil mélangé d'un peu plus de 30 000 emails de lecteurs, donc d'anciens abonnés, de gens qui ont fait des concours, des machins. Pour acheter les anciens numéros, donc ça c'est la première phase. Ensuite, évidemment, j'ai sur Facebook et les autres réseaux. Je pense que ça sera suffisant, parce que 1000 exemplaires, c'est beaucoup, à la fois c'est très peu.
Bah oui, c'est par
qualitativement,
exemple...
qualitativement, j'ai quand même l'impression de ne pas me foutre de la gueule du monde.
C'est clair, quand on voit la liste des artistes...
Ouais, et puis en plus, là maintenant, j'en suis à la phase, je suis en correction, en fait, le bouquin est quasi fini.
Mm-hmm.
Donc j'ai relu moi-même, j'ai redécouvert des choses, parce qu'il y a des articles que j'ai... Il y a des choses qui étaient 100% inédites. B.B. King, tu citais B.B. King tout à l'heure, B.B. King, c'est 1h20 de blabla à l'arrière d'une limousine, jamais publié.
Là, d'accord. C'était à quel moment ça, Christophe?
C'était pour le concert privé pour Blues Brothers 2000 à Cannes.
En 97, 98
voilà, ouais. J'ai appris qu'il y avait un concert privé le soir avec tous les musiciens présents dans le film, Milan, etc. B.B. King, je l'avais jamais rencontré, enfin j'avais croisé un concert après la tournée qu'il avait fait avec U2, donc ça devait être en 89, j'avais croisé dans les loges. Donc, ouais,
d'accord.
J'avais la louche, quoi. Et bref, j'avais envie de parler avec ce mec, j'adorais vraiment profondément. Et donc voilà, je me suis dévoué avec l'attaché de presse, évidemment à Cannes, tout le monde, tout le monde s'en foutait complètement, donc il n'avait même pas d'interview, rien. Et elle m'a juste dit, vers 14h, il sera au fond de la croisette, en face de l'endroit où il y aura le concert. Il nous a demandé d'avoir une limousine avec air conditionné, il veut faire sa sieste là, donc tu vas, tu le jettes, dès que tu vois une limousine, tu tapes au carreau, tu te démerdes. Et donc c'est ce que j'ai fait. Je suis arrivé, il commençait à pas s'endormir. Je lui dis, ça t'embête pas, je rentre, on discute 5 minutes. Il fait, non, pas de problème. Je suis installé, donc c'est une double limousine, rose à l'intérieur. Il y avait sa guitare d'un côté, donc je lui ai donné.
Ouais.
Avec sa guitare, moi j'étais en face. Et puis voilà, je suis rentré pour 5 minutes et je suis resté 1h30.
Christophe, je suis désolé de te couper. Il est pratiquement 16h, il faut que je rende l'antenne, on a une émission derrière. C'était un plaisir de discuter avec toi. On va se faire le relais de cette souscription et puis la sortie du bouquin, rappelons-le. Le titre, c'est Blues Country Folk. C'est pour juin 2016. Christophe Goffet, en interview en direct dans Sweet Home Chicago. On va lire tout ça. Et puis, puisqu'on peut choisir son numéro, moi je te commande le numéro 666, si c'est pas encore fait.
Je crois que c'est fait.
Ah merde, bon.
Je crois que j'ai un gars qui m'a réservé les 12 volumes pour 666.
C'est un enculé, le mec.
Ouais, mais tu sais, c'est comme... J'ai sorti un bouquin là, au mois de mars, j'ai tiré à 666 exemplaires, et en fait, j'aurais dû faire 333 exemplaires numéro 1 et 333 666.
Christophe, c'est fini les 16 heures. Ah, merci beaucoup.